De Libertaire 89.4, vous êtes avec les Amis d'Orwell et aujourd'hui on reçoit Claude Guillon pour son livre « Je chante le corps critique » aux éditions H&O qui est sorti en 2008.
Bonjour, vous êtes bien sur Radio Libertaire, les Amis d'Orwell, et on vient d'écouter Delia Romanes sur une BO de Gadjo Dilo.
Voilà, donc c'était Béné à la technique. Donc on a Bruno et Jean-Pierre pour animer l'émission. Et aujourd'hui, donc on invite Claude Guillon à propos de son livre « Je chante le corps critique » qui est sorti en 2008 aux éditions H&O. Donc Claude Guillon a écrit un certain nombre d'ouvrages, notamment « Suicide, mode d'emploi, histoire, technique, actualité » avec Yves Le Bonnier, qui est sorti donc en 1982. Et un certain nombre d'ouvrages sur le corps, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Donc pour en finir avec Reich aux alternatives diffusion en 78 et plein d'autres livres encore.
Oui, je suis un récidiviste.
Voilà, donc on peut effectivement commencer par le titre. Donc je chante le corps critique, les usages politiques du corps. Alors je chante le corps critique, d'où ça vient?
C'est une formule qui est... un pastiche dérivé d'une formule de Walt Whitman, qui est un poète américain homosexuel, qui a écrit « I sing the body electric »,« Je chante le corps électrique ». Et l'idée était tout simplement de chanter d'une manière que j'espère un peu poétique, ou en tout cas de, ça je m'expliquerai un petit peu là-dessus tout à l'heure, de venir essayer de combattre une production d'une poésie marchande et capitaliste sur le corps qui vient un peu coloniser les esprits, je pense, et donc les imaginations, et donc prendre la place de la poésie. Et donc il s'agissait pour moi de promouvoir un corps critique, comme on parle d'un esprit critique. Voilà, d'où la formule qui est éclairée par le sous-titre « Les usages politiques du corps ». J'ai essayé de dresser un inventaire des modes d'action qui utilisent des modes d'action militants, publics, notamment dans les manifestations, qui utilisent le corps. Alors, le corps est toujours en mouvement dans un mouvement social, justement, puisque on ne peut pas sortir sans son corps, même s'il y a des gens qui font des efforts pour essayer de sortir de leur propre corps. Mais il y a des mouvements où se voit de manière très, très manifeste et éventuellement choquante l'usage de la nudité. Donc j'ai un peu travaillé là-dessus, on en reparlera peut-être tout à l'heure. C'est intéressant parce qu'on voit qu'il ne s'agit pas que d'un mode un petit peu bourgeois, utilisé par des étudiants, mais par des gens très très différents dans toutes les régions du monde.
Et en fait, il y a une dimension qui revient à chaque fois dans le livre, donc c'est la réflexion autour du corps, le corps et le capitalisme, ou enfin, ce qui pourrait nous intéresser plus particulièrement pour notre émission, c'est le corps et les libertés, en quoi le corps est... on porte atteinte au corps dans ce type de société, ou dans quelle mesure, effectivement, on peut... grâce à notre corps, peut-être se révolter, je ne sais pas. Enfin, tu abordes donc différentes thématiques autour du corps. Donc le corps qui va être soumis au travail, le corps comme marchandise, et notamment la question des femmes, ça revient assez souvent dans le livre. Et aussi le corps et son évolution, et l'évolution des techniques, puisque il y a une phrase... que j'ai relevé, que je trouve assez intéressante, c'est l'idée que l'évolution technique est le produit de la tendance innée de l'être à extérioriser les fonctions corporelles, donc marcher, soulever, frapper, lancer et finalement penser. C'est-à-dire que au XXIe siècle, le corps devient, la question se pose de l'au-delà de l'humain, le corps et la machine.
Il y a une formule. Qui m'a paru intéressante, mais qui est bien connue d'une artiste féministe américaine qui s'appelle Barbara Kruger, qui dit « Mon corps est un champ de bataille ». C'est pas nouveau hein, que le corps soit un champ de bataille. On peut dire que ça a toujours été plus ou moins vrai, mais le système capitaliste a de nouveaux moyens d'utiliser le corps et d'utiliser l'image du corps dans sa propagande, c'est-à-dire essentiellement dans la publicité. Donc, moi, je voulais essayer de voir de quelle manière le corps humain est un champ de bataille aujourd'hui et de quelle manière aussi, tu faisais allusion à l'instant, le système essaye de s'en abstraire, sans grand succès d'ailleurs. Il y a une tendance du système capitaliste qui est... depuis longtemps remarqué par Marx, d'abord au dynamisme. C'est un système extrêmement dynamique qui a une grande faculté d'adaptation et de mutation. Et il a besoin de conquérir de nouveaux espaces. Alors tant que c'était sur la planète, c'est relativement facile parce que voilà, il ignore les frontières, il s'étend au monde entier de plus en plus. C'est aujourd'hui vrai, il n'y a plus, à part quelques tout petits jardins sauvages d'Amazonie, il n'y a vraiment plus grand-chose qui échappe à son emprise et à ses activités de rentabilisation. Et du coup, d'une certaine façon, il se retrouve en face de lui-même, parce qu'il a conquis tout l'espace géographique, même une partie de l'espace interstellaire, hein, la Lune, bientôt Mars. Et alors... Et on a l'impression qu'il y a un mouvement un peu d'auto-dévoration, c'est-à-dire qu'il se retourne sur lui-même et il nous fait nous retourner sur nous-mêmes en essayant de dépasser le corps humain et de dépasser l'espèce humaine. De dépasser ce qui caractérise l'espèce humaine, c'est-à-dire un corps qui acquiert des techniques, qui peut les échanger avec d'autres. Et là, on arrive dans les théories post-humanistes, sur lesquelles on reviendra peut-être tout à l'heure, qui expliquent que le corps est obsolète. Et ça m'avait frappé parce que pendant le temps assez long, parce que comme souvent je prends un travail, je l'interromps pour répondre à une commande, je le reprends, etc. Pendant le temps où j'ai rédigé « Je chante le corps critique », il est paru énormément de bouquins sur le corps, ce qui d'abord ne fait jamais très plaisir à un auteur qui est en train de traiter un sujet, parce qu'il se dit qu'on est en train de lui griller son sujet, d'autant qu'il s'agit souvent d'auteurs mieux connus, mieux reconnus, dont les livres sont mieux publicités par la presse. Et puis surtout, en plus, il y avait quelque chose d'un petit peu inquiétant dans cette avalanche soudaine, comme si, parce que le corps humain, bon, c'est quand même une donnée assez ancienne, n'est-ce pas ? Et tout d'un coup, on avait l'impression qu'il devenait urgent d'en dresser la carte, d'en relever les traces. Un peu comme si l'humain était une sorte de yéti. Je ne sais plus comment s'appelle quel est le nom qu'on a donné à cette momie qu'on a trouvée dans des glaces, je ne sais où, là. Comme si on était un peu une espèce en voie de disparition. Pas parce que l'humain serait pas par haine de l'humanisme, mais par une espèce de logique folle du système qui veut que il faille conquérir des territoires, des espaces toujours plus importants. Et le corps, on l'a exploité. Le système capitaliste l'a exploité depuis ses débuts. Le travail est exploité, les gens sont exploités, le corps est exploité. Alors, on en vient maintenant à l'idée de l'augmenter par des prothèses ou de le modifier génétiquement, de le modifier en abolissant tout ce qui permettait de définir ce qui est vivant, ce qui n'est pas vivant, ce qui est humain, ce qui est machinique, ce qui est organique, ce qui ne l'est pas. Donc on s'apprête à faire des espèces de mélanges ordinateurs, cellules vivantes, des choses très très inquiétantes pour le misérable humain dans un corps misérable lui-même que je suis. Et donc, il me semblait que c'était le moment ou jamais, avant qu'il ne soit trop tard peut-être, de faire le point sur tout ça d'un point de vue politique, en gardant en tête l'étalon qui est le mien en tant que militant anarchiste révolutionnaire, qui est la destruction l'abolition du système capitaliste, qui est un système qui repose sur l'exploitation du travail et l'abstraction de la valeur qui est portée par l'argent, et l'imagination d'une autre société, c'est-à-dire d'autres rapports entre les êtres humains. Encore faut-il qu'il reste des êtres humains pour qu'on puisse imaginer des rapports entre eux. Si on n'a plus affaire que à des espèces de mixte entre le robot, le grand singe et ce qu'on connaissait comme être humain, ça brouille les cartes de telle manière, et c'est peut-être à ça que ça sert aussi, qu'il devient un peu difficile d'imaginer un autre avenir pour l'humanité.
Donc, je tiens à dire que donc le livre est quand même une somme et qui est très très fournie. En fait, il y a beaucoup. Enfin, tu t'appuies sur beaucoup d'exemples, notamment des sources anarchistes, ce qui est assez intéressant. En fait, une réflexion aussi globale avec des sources qui sont pas toujours qu'on n'est pas toujours habitué à voir. Donc, dans les ouvrages de chercheurs. Et peut-être pour commencer, je trouve que ça serait intéressant de parler justement du corps et du travail. L'idée qu'en fait, le système capitaliste sert du corps à travers le travail. Et ce que je trouve aussi intéressant dans l'ouvrage, c'est qu'à un moment donné, tu dis que les ouvriers, finalement, ils avaient une certaine fierté à ce que leur corps soit maltraité, enfin, en tout cas, n'ont pas forcément combattu dans le sens d'une amélioration de leurs conditions de travail à ce niveau-là, quoi.
Oui, ça, c'était l'objet d'un grand étonnement de la part de certains militants politiques, maoïstes notamment, qui allaient s'établir en usine dans les années 60 et 70. Ils venaient avec des revendications tout à fait justifiées politiquement et théoriquement, contre les accidents du travail, par exemple. Et puis ils étaient très étonnés de constater que les ouvriers s'y intéressaient pas nécessairement. Parce qu'il y avait une espèce de... La manière, comment dire, la violence que le travail, et que le travail exploité, fait au corps, ne se supporte qu'avec des moyens psychologiques de compensation, si tu veux. Et un de ces moyens, c'est d'assumer la dureté du travail, surtout quand on est un homme, parce qu'on peut l'assumer dans la fierté virile, d'une force virile, qui ne cherche pas du tout à limiter les risques du travail. Et les ouvriers, dont je cite un certain nombre de témoignages dans le livre, que ces militants rencontraient, mettaient leur point d'honneur à ne pas utiliser les systèmes de protection sur les machines. Alors qu'on aurait pu penser que logiquement, et d'ailleurs ça peut être le cas aussi, que ces systèmes de protection ont été le fruit de conquêtes et de luttes. Mais ça ne veut pas dire qu'ils les utilisent pour autant quand ils les ont. Parce que de toute façon, il y a une telle violence qui est faite à l'individu dans le travail et dans le travail exploité, violence physique et violence psychique, que il faut assumer cette violence que le travail vous fait. On l'assume dans une violence qu'on se fait à soi-même, en prenant le risque de l'accident, de l'amputation, de la mort. Et ce n'est pas une simple façon de parler, puisqu'il y a beaucoup, beaucoup de morts par accident du travail. Il y en a un peu moins dans nos régions. Ça a été juste délocalisé avec la production vers les pays dits émergents, qui sont accessoirement infiniment plus peuplés que le nôtre. Comme, donc ça concerne beaucoup plus de gens aujourd'hui qu'il y a 50 ans, hein, notamment en Chine, par exemple.
Et alors du coup, ce qui est intéressant, c'est que finalement, il y avait aussi une volonté de la bourgeoisie d'améliorer les conditions de travail. Ou même, améliorer ses... peut-être que justement pour assurer la survie du corps, j'imagine, et même, c'est assez connu, mais les mutuelles, il y a un certain nombre de choses comme ça qui ont été plutôt imposées par la bourgeoisie, alors qu'il y avait déjà une entraide entre ouvriers, c'est ça, hein.
C'est un paradoxe qui explique en partie la réticence des organisations ouvrières à reprendre à leur compte ou à prendre à leur compte un certain nombre de luttes sur les conditions de travail et sur les conditions de vie, c'est-à-dire les retraites, les assurances par rapport aux accidents. Toute une partie, notamment au XIXe siècle, toute une partie de la bourgeoisie, en général de la bourgeoisie catholique, avait des visées hygiénistes qui étaient à la fois... matériel dans le sens d'une rationalisation de l'exploitation, c'est-à-dire plus les gens sont dans des bonnes conditions pour travailler et meilleur sera le rendement. Et là, on voit que ça touche un spectre extrêmement large d'un point de vue politique, puisque ça se retrouve chez les nazis, qui font construire des réfectoires, des douches, des toilettes dans les usines. Ils les font construire gratuitement par les ouvriers eux-mêmes. Ce qui fait que d'ailleurs, ils sont boycottés souvent par les ouvriers, ce que les nazis trouvent étonnant et scandaleux. Mais c'est un paradoxe, c'est parce que on peut dire que pouvoir se doucher après une journée de travail, ça peut être agréable. Ça peut sûrement être agréable, mais comme c'était proposé par une organisation politique qui visait à détruire la culture ouvrière et les organisations ouvrières, c'est très mal reçu. Et du coup, ça n'est pas repris en compte par les organisations ouvrières elles-mêmes. Et que ce soit chez les nazis, que ce soit chez les catholiques, il y a aussi une dimension morale. Hein. C'est un encadrement. En gros, c'est en France qu'on connaît comme le système Michelin, c'est-à-dire contrôler la vie du travailleur depuis la crèche, la maternité, la crèche, l'usine, l'école, les logements, tout ça étant... de préférence aéré, propre, guiré, ce qui est supposé garantir une bonne productivité. Mais nous n'avons pas, libertaires, échappé tout à fait à ce genre de piège. Je cite un texte de Kropotkine qui visite une usine d'armement et qui est très épaté par le fait que ce sont des locaux vastes, clairs, aérés, propres, et qu'on lui présente comme... on lui dit, mais ça va de soi, c'est une question de bonne gestion. Tout le monde est bien mieux comme ça, donc tout se passe très bien. Et il dit, un jour, on pourra certainement rendre le travail agréable. Alors voilà, c'est toute la difficulté, ça a été toute la difficulté pour le mouvement ouvrier, à la fois de conquérir des choses très, très matérielles, très concrètes au jour le jour, dans des améliorations parce que le corps a des limites aussi, il ne peut pas supporter n'importe quoi. Et en même temps, voir que ces améliorations sont quelquefois portées par ses ennemis, très, très clairement. Voilà. Donc, d'où l'ambiguïté et paradoxe dans l'attitude du mouvement ouvrier par rapport à ces questions.
Bon, je suis d'accord sur le constat, sur le fait que les ouvriers peuvent... la virilité, évidemment, ça, c'est quelque chose qui est toujours vivant, plus tellement le cas maintenant,
de moins en moins.
Ça existe encore, quand même. Hein.
De moins en moins.
Par contre, sur le fait que les revendications d'hygiène, les mutuelles, le mouvement ouvrier s'est quand même constitué autour des bourses du travail, des coopératives, des mutuelles. Il a revendiqué dès le début de meilleures conditions de travail. Par contre, c'est le vieux débat de la bourgeoisie de savoir si elle accompagne ce mouvement pour une meilleure productivité ou si elle s'acharne à faire vraiment le plus tendu sur la... et exploiter au maximum les ouvriers. Mais je pense que dès le départ, il y a quand même des revendications d'hygiène, y compris dans le mouvement révolutionnaire, non ? Je ne crois pas que c'est cette contradiction de la bourgeoisie qui...
La contradiction se retrouve à la fois chez l'exploiteur, c'est-à-dire entre la tendance tayloriste, c'est-à-dire une rationalisation qui cherche à tirer le maximum... mais parce qu'on est dans un système qui utilise beaucoup la force physique, pour le coup. Et puis une tendance un peu plus hygiéniste et plus moralisatrice qui dit qu'il faut améliorer la condition de l'ouvrier parce que c'est la meilleure façon d'améliorer la productivité. Mais on est maintenant dans une phase... du système, ou dans nos régions en tout cas, parce que une fois de plus, il faut se rappeler que là, il y a une espèce de taylorisation à l'échelle de la planète. La taylorisation ne repose plus sur l'exploitation tant de la force physique que de l'affectivité, l'imagination, l'inventivité des travailleurs dans nos régions, et puis la production qui a été délocalisée dans des pays comme la Chine. On se retrouve au 19e siècle avec d'ailleurs les mouvements sociaux qui vont avec. Hein. On voit ça maintenant. Même la presse qui ne peut pas en rendre compte tous les jours, parce que probablement ça n'intéresserait pas beaucoup les lecteurs, publie énormément de choses sur des mouvements revendicatifs, extrêmement durs, des émeutes. Hein. Il y en a tout le temps en Chine. Mais dans un pays comme la France, les études sociologiques montrent que la force physique et donc la virilité et donc les systèmes de réassurance psychologique des ouvriers, tout ça est complètement bouleversé par le fait qu'on a de plus en plus de machines, de moins en moins recours à la force physique brute, sauf dans des secteurs particuliers comme le bâtiment par exemple. Et puis, il y a aussi des modifications culturelles qui font que les jeunes ouvriers ne se comportent pas exactement comme le faisaient les autres. Ils n'ont pas les mêmes habitudes, ils n'ont pas les mêmes goûts. Ils boycottent pas mal les rites virils qui sont qui étaient traditionnellement une façon pour les ouvriers d'intégrer au groupe les nouveaux et de représenter, de symboliser la violence du travail. Ça ne les intéresse pas trop. Donc il y a un vrai... Quand je dis « il y a », c'est déjà un peu passé maintenant, parce que les enquêtes sur Peugeot à Sochaux, par exemple, datent déjà de quelques décennies. Il y a une vraie rupture avec ce qui était un élément constitutif aussi de la culture ouvrière. Mais ça ne veut pas dire que c'était bien, hein, mais c'est... Ouais. Voilà.
Est-ce que... Enfin, ce constat-là, est-ce que ça ne vient pas aussi du fait du changement de la structure du monde du travail ouvrier ? Tu fais référence aux enquêtes là, de Sochaux, c'est le bouquin de Beau et Pialou. Ouais. Aussi, le fait qu'il y a moins de structure ouvrière du fait du recours qui s'est développé, du recours à l'intérim, à la sous-traitance, et donc peut-être moins de possibilités de transmettre des savoirs ou une culture ouvrière de génération à génération.
Il y a ça aussi. Mais du point de vue qui nous occupe là, principalement ce soir, il y a le fait que le corps, en tant que compris comme force physique, est de moins en moins sollicité. Et la créativité, de plus en plus. Alors, évidemment, pas sur une chaîne, encore que d'ailleurs, dans les systèmes japonais, on sollicite beaucoup l'imagination, les suggestions des ouvriers. D'ailleurs, en travaillant sur le bouquin, j'ai vu que ce n'était pas si récent que ça et qu'il y a toujours eu des patrons qui se sont préoccupés de piquer des idées aux ouvriers si c'était possible. Mais c'était en plus d'un travail qui était extrêmement dur physiquement. C'est un peu moins vrai, ça peut rester vrai. Il y a peut-être des gens qui vont entendre l'émission qui vont dire « Mais moi, dans mon boulot ou dans ma boîte, il y a des gens effectivement qui font un travail de physique, y compris dans les services. Hein. Par exemple, tout ce qui est toutes les boîtes qui envoient des techniciens de surface, ça c'est physique. Hein. Tu te casses le dos. Les caissières de supermarché se cassent le dos aussi. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus de pathologies du corps, mais les pathologies changent. Maintenant, c'est les troubles musculo-squelettiques, les tendinites, les troubles oculaires avec le travail sur écran. Mais bien sûr, c'est toujours le corps parce que, voilà, pour l'instant, on n'a pas tout à fait dépassé le corps humain, ce dont je me réjouis. Mais c'est plus le corps porteur d'une force physique.
Autrement, le corps sert aussi beaucoup aujourd'hui comme marchandise.
Le corps lui-même, oui, alors de toutes les manières imaginables, à la fois comme objet même, c'est des organes qui sont vendus. Hein, on pourrait établir, je l'ai fait au moment où j'ai écrit le livre, mais les tarifs ont certainement changé, mais on sait combien coûte un rein venant de telle partie de la planète, combien coûte tel ou tel organe, combien on va vendre une chevelure qui a été donnée par des indiennes à des temples en offrande aux dieux et qu'on revend très très cher à des fabricants de postiches. À peu près toutes les parties du corps peuvent se vendre et s'acheter, ou le corps lui-même, évidemment, dans la prostitution. Là, on voit que le trafic d'êtres humains se développe. Il n'y a qu'à regarder qui fait le trottoir, quelle est la couleur de peau des personnes qui se prostituent sur les trottoirs parisiens pour voir la succession d'arrivages, puisqu'il s'agit bien de ça, de gens qui viennent de différentes parties du monde. Et puis le corps est aussi une marchandise, alors de manière plus indirecte, on va dire, par la publicité. C'est-à-dire qu'on utilise les images du corps et majoritairement les images du corps féminin parce qu'on est dans un système de domination masculine. Donc c'est ça qui est le plus productif, même si le corps masculin commence à être utilisé un petit peu, qu'il y a des niches de clientèle, une clientèle homosexuelle masculine qu'on va viser avec certaines publicités particulières. Mais là, d'une manière qui était inconnue il y a 100 ans, évidemment, et même il y a 50 ans encore, le corps est extrêmement utilisé, montré, à la fois pour vendre des produits, c'est pour vendre des produits, bien sûr, c'est le but de tous les marchands. Je pense que ça a pour effet une espèce de pollution de l'imagination. Et de la représentation que les gens ont d'eux-mêmes. C'est-à-dire que, puisqu'il y a des modèles qui sont fournis, et ils sont fournis de manière à ne pas pouvoir être atteints, sinon ça n'a aucun intérêt. Il suffirait d'acheter immédiatement ce qui permet de se conformer au modèle, et ça serait fini, le marchand ne pourrait plus rien vendre. Donc il fournit des modèles, notamment des modèles de corps féminin, qu'on sait impossible à atteindre. Il suffit de sélectionner les mannequins sur des anomalies statistiques, c'est-à-dire c'est très facile, comme on fait des castings à l'échelle de la planète entière, on peut facilement sélectionner des filles qui ont un rapport complètement aberrant entre la longueur des jambes et la hauteur du torse, par exemple. Et ensuite, de toute façon, on rebidouille ça à l'ordinateur pour les photos. Il y a des vidéos très, très bien faites sur Internet. On voit comment on peut, en tournant un tout petit cran, whoop là, vous voyez, le personnage s'étirer un peu comme dans ces miroirs déformants qu'il y avait dans les foires il y a des années. Maintenant, on fait ça tous les jours dans les magazines, sur Internet, sur les murs du métro, à la télévision. Voilà. Ce qui fait que... non seulement les gens sont soumis à des messages publicitaires en nombre qui se comptent par centaines ou par milliers chaque jour, pour les gens qui vont à leur travail, ils ont un trajet. Il y a des statistiques là-dessus, c'est absolument faramineux. Mais en plus, ça leur reste dans la tête, puisqu'ils sont en situation de se comparer sans arrêt, de se comparer dans leur intimité, c'est-à-dire dans eux-mêmes, leur corps. Donc, ce qu'ils ont de plus intime et de plus personnel, ce qu'ils voient quand ils se regardent dans la glace. Enfin, quand on se voit dans une glace, on a tendance à se dire « c'est moi ». Voilà. « Moi » est un peu plus compliqué que ça en réalité. Mais quand je me vois dans une glace, quand je décide quel t-shirt je vais mettre, ou quand je me rase, ou quand je m'épile les sourcils, ou que sais-je, c'est moi que je vois. Et on est en situation de se comparer sans arrêt à des modèles et d'être amené dans une course qui ne peut pas aboutir, mais qui est faite pour ça, à essayer de se conformer à ces modèles. Ce qui fait qu'on est en permanence comme ça pollué et parasité, y compris dans la manière dont on se voit, dont on se pense comme individu, et dans la manière dont on voit les autres et dont on les désire. Hein ? Et dans la manière dont on espère que les autres vont vous désirer. Et je crois qu'il n'y a pas grand monde, je ne m'exclus pas d'ailleurs, je ne prétends pas être au-dessus de tout ça, il n'y a pas grand monde qui échappe à ça, parce que je vois ça que... On peut avoir des discussions un peu idéologiques, tu vois, et là, ce que je suis en train de dire, tout le monde va être d'accord, tu vois, dans les milieux militants. Et puis cinq minutes après, dans la conversation, j'y pense parce que j'ai vu une jeune femme récemment qui est venue me rendre visite chez moi. Je ne vais pas dire qui c'est. C'est quelqu'un qui pourrait être connu de certains auditeurs dans le milieu militant et qui a sûrement un point de vue absolument impeccable politiquement sur cette question. Et puis, il se trouve qu'elle fréquente le club de gymnastique qui est à côté de chez moi. Et je lui dis, mais bon, en plaisantant, je lui dis, mais oui, pour pourquoi ? Non, parce que j'ai pris un peu de ventre. D'ailleurs, même mon copain l'a remarqué. Inutile de dire, bien sûr, mais ça va mieux en le disant, que c'est une fille incroyablement svelte. Mais on peut toujours penser qu'on a trop de ventre ou pas assez de seins ou je ne sais quoi d'autre. Et surtout, on peut vous faire penser très facilement que, et quels que soient vos choix politiques par ailleurs, qu'on n'est pas conforme, quoi.
Je pense qu'on abordera après une pause musicale la question des femmes qui revient assez longuement dans le livre.
On va écouter Portishead. Thank you.
Radio Libertaire 89.4. Vous êtes toujours avec les amis d'Orwell et avec Claude Guillon à propos de son livre « Je chante le corps critique ». Donc on parlait notamment d'un terme qu'on n'a pas, donné le terme, mais tu parlais de terrorisme normatif dans ton livre. Et bon, c'est un peu ce qu'on a abordé tout à l'heure. Et moi, je trouve quand même que tu développes énormément, en fait. Enfin, je pense que les femmes sont notamment d'autant plus touchées par toutes ces questions. Et tu parles, si je retrouve, voilà, à un moment donné, tu dis, c'est au contraire une frustration narcissique qui est perpétuellement entretenue chez les femmes. Et je trouve que, enfin, que ce soit à travers la prostitution ou à travers l'anorexie, enfin, la question des femmes, elle revient assez régulièrement. La question de la domination aussi des femmes dans la société. Et voilà, je pense que ça serait bien de développer un peu. Même si c'est assez large et qu'on n'a pas beaucoup de temps.
Ouais. Oui, ça me fait penser justement à un enregistrement que j'entendais sur Radio Libertaire, d'une intervention de Christine Delphi dans un je ne sais plus quel congrès féministe. On lui demandait de faire le point en 4 minutes et demie sur un sujet comme ça. Elle était très drôle et beaucoup plus brillante que je ne peux l'être. Pourquoi les femmes sont au centre de ce livre? Parce qu'elles sont au centre d'un système de domination masculine qui s'énerve beaucoup de ne pas arriver à s'en passer. Ce qui fait que, à la fois, elles sont un support auxquelles on aurait du mal à renoncer dans le système marchand tel qu'il fonctionne aujourd'hui. Elles sont un support publicitaire, elles sont aussi une cible de la publicité, bien entendu. Et puis, elles sont, pour l'instant, il y a quelques tentatives de dépasser ça biologiquement, mais pour l'instant, on balbutie quand même un petit peu. Les éprouvettes, c'est pas encore complètement au point. Elles sont quand même le socle d'un système de reproduction de la force de travail. On peut pas se passer des femmes. Or, le machisme, pas plus que le capitalisme, n'est un système rationnel. Si c'était rationnel, effectivement, la vision qu'on évoquait tout à l'heure à propos du travail, on fait en sorte que tout le monde soit bien, vive tranquillement, à l'aise, dans des endroits agréables, aérés, machin. On pourrait ajouter en pouvant vivre sa sexualité comme il l'entend, avec même la possibilité de changer de sexe si ça pose des problèmes. Et tout ça, ça serait bon, le meilleur des mondes possible. Mais ça ne fonctionne pas comme ça parce que ça n'est pas un système rationnel. Certes, il y a des logiques dans le système capitaliste, la logique du profit. Il y a des logiques dans le système de domination masculine. C'est les hommes qui produisent les règles et qui gardent le pouvoir. Mais ce ne sont pas des systèmes strictement rationnels. Ils reposent aussi, surtout le machisme, sur de très vieilles angoisses, des angoisses archaïques, des frustrations archaïques, des haines archaïques, qui font que on finit toujours par abîmer les objets dont on est propriétaire. Et c'est pour ça qu'on tue autant de femmes, c'est pour ça qu'on défigure autant de femmes, c'est pour ça qu'il existe des crimes d'honneur dans un certain nombre de pays. Et c'est pour ça aussi qu'on aboutit à ce que l'économiste Amartya Sen, je prononce sans doute mal son nom, un économiste indien, appelle un déficit de femmes. C'est-à-dire qu'il y a un moment où le système qui pourrait être un système de, disons, d'élevage des femmes, hein, les hommes possèdent des femmes comme on possède des têtes de bétail, mais on fait en sorte que le bétail soit et le moins de maladies possible, et abrouté autant qu'il faut, se reproduise dans de bonnes conditions, comme ça après on peut le vendre ou le manger. Et c'est pas comme ça que ça se passe avec les femmes. Les femmes sont moins bien entretenues pardon, que les voitures ou que le bétail. Ce qui veut dire qu'il y a des ressorts psychologiques qui sont différents et beaucoup plus profonds et dont les maîtres eux-mêmes, alors que ce soit les maîtres du monde, avec tous les guillemets qu'on veut, ceux qui dirigent, je ne sais pas quoi, les instances internationales, ceux qui sont à la tête des grandes multinationales, ou les petits maîtres domestiques, ils ne comprennent pas exactement ce qu'ils font. Ils ne savent pas exactement ce qu'ils font. Et ils produisent eux-mêmes des déséquilibres, qu'il s'agisse de déséquilibres écologiques par rapport aux ressources de la Terre, que le capitalisme ne devrait pas entamer de manière, oserais-je dire, anarchique, puisqu'il en a besoin absolument pour pouvoir continuer. Or, il le fait quand même, parce que ça part dans tous les sens, il y a des concurrences, tout ça n'est pas rationnel. Et de la même manière, le cheptel humain féminin n'est pas géré de manière rationnelle. C'est un scandale, chers auditeurs. Et on en arrive à des déficits, entre guillemets, ou des déséquilibres tels que le système est mis en position, en l'occurrence système de domination masculine, mais aussi système capitaliste, parce que c'est le seul qui existe, de ne plus pouvoir fonctionner et se reproduire, parce qu'il y a un genre qui est tellement discriminé et tellement maltraité qu'il finit par, entre guillemets, disparaître de la carte. Alors, c'est vrai en Inde, c'est vrai dans un certain nombre de régions du monde comme ça.
Bien que, comme on en discutait tout à l'heure, il y a quand même des mouvements féministes. Le fait que le corps physique ne soit plus autant exploité laisse plus de place aux femmes. Donc il y a aussi une évolution au XXe siècle vers une certaine libéralisation de la femme. Et une évolution aussi, une affirmation d'une possibilité d'évolution des genres. Enfin,
Il y a des luttes, hein, bien sûr. Oui, je suis pas en train de, pardon, je suis pas en train de faire un tableau catastrophiste, encore qu'il soit pas très optimiste. Il y a des luttes, et y compris des luttes autour du travail, où le corps se remet en première ligne. Mais c'est une tendance de fond quand même. Et j'essayais de répondre à ta question, mais qui était vaste, de savoir pourquoi les femmes, pourquoi il était tant question des femmes dans ce livre. Une des raisons, c'est ça, c'est que elles se trouvent non seulement tout autant exploitées que les hommes dans le travail, dans l'exploitation habituelle, soumises à une exploitation domestique. Et en plus, soumise à une exploitation, à une domination masculine qui n'est pas rationnelle et qui mène dans une espèce de haine et de ressentiment jusqu'à leur élimination et à une espèce de ce que j'ai appelé une tentation gynécidaire à l'échelle de la planète.
Pour continuer sur l'histoire d'un genre qui disparaît, il y a... D'une façon contradictoire, il y a la revendication, peut-être qu'on voit souvent dans les mouvements féministes, et féministes au sens féminin, mais aussi des féministes hommes qui revendiquent ça, de destruction du genre, de dépasser le genre. Et par rapport à ce besoin du système de tout vouloir rationaliser, maîtriser, derrière cette revendication, je me demande si on ne va pas justement vers... Si ça ne correspond pas aux mutations même du système, de vouloir tout uniformiser, parce que je sais qu'il est dit que derrière cette destruction du genre, il y a l'affirmation de chacun, de sa propre sexualité, mais on n'entend pas en contrepartie. Tout ce qui est différence, quelque part, affirmation de différence, devient quelque part gênant. Quoi. Donc, et c'est ça qui m'interpelle. Quoi. C'est-à-dire que je ne sais pas si la question est bien claire et... Mais cette revendication me dérange quelque part. J'y vois un symbole de négation de différence aussi, qui correspond à la recherche peut-être d'un être androgyne capable de toutes les sexualités.
Je disais tout à l'heure que le système capitaliste est extrêmement dynamique et surtout ce dynamisme se traduit notamment par une faculté d'adaptation extraordinaire. Ce que tu dis à propos de sa tendance à l'uniformisation, c'est juste, on peut le constater quand on se déplace sur la planète. Aujourd'hui, les centres-villes, ou à l'intérieur d'un pays, ou même dans le monde entier, les centres-villes se ressemblent de plus en plus les uns les autres. On y trouve les mêmes magasins de fringues, les mêmes entreprises de restauration rapide. Ça, c'est de l'uniformisation. Par ailleurs, je ne suis pas convaincu qu'il ne soit pas capable de récupérer aussi les diversités et les revendications d'identité très non conformes, très diverses, très... on voit ça dans certaines grandes entreprises, comme IBM, par exemple. Alors, avant de donner mon exemple... On est dans des phases de transition, donc c'est extrêmement difficile de parler en généralité, parce que tu peux avoir à la fois quelqu'un qui va écouter l'émission sur Internet et qui vit dans le centre de la France, et pour qui c'est extrêmement difficile, voire quasiment impossible, de dire qu'il est homosexuel à son travail ou à sa famille. Bon, et bien sûr ça existe et sa souffrance est réelle. Et puis en même temps, t'as des grandes entreprises comme IBM qui disent « Mais nous, on investit beaucoup d'argent sur nos salariés, donc il n'y a pas de problème. S'ils doivent changer de sexe, on les aide, on finance l'opération. » Et là, tu vois un autre visage de la société actuelle et du système qui est tout à fait capable de s'adapter, de reconnaître les individualités aussi gênantes. Bon, il venait au travail... en Doc Martens la semaine dernière, ça sera en talon aiguille la semaine prochaine. Qu'importe.
C'est véridique cette histoire d'IBM, là ?
Pardon ?
Je dis c'est véridique cette histoire.
Oui, absolument. Oui, là, je donne la. Alors, c'est pas. Ça ne représente pas l'état des mentalités dans l'ensemble de la société à un moment donné, bien entendu. Hein, c'est une pointe avancée. Mais justement, c'est un responsable d'IBM qui représente cette pointe. Ce qui compte, on retrouve d'une certaine façon le moralisme en moins, à moins que ce soit un nouveau moralisme, les hygiénistes dont on parlait tout à l'heure. Ce qui compte, c'est qu'il y ait la meilleure production possible. Ça va avec des... Bon, il faut organiser, je ne sais pas quoi, des clubs où les gens se retrouvent, mais aucun problème. On fait bien des salles de gym où les salariés peuvent se masser. Après tout, si à l'heure du repas, il y en a qui choisissent de s'envoyer en l'air, on va créer des salons pour ça. C'est pas très gênant.
Mais alors, est-ce que le corps peut rester subversif et à ce pouvoir?
Voilà une question qui est bonne et dont j'ai pas la réponse. Alors. Ma position, mais ça, on en parlait, on en discutait entre nous au café tout à l'heure, avant l'arrivée de notre technicienne. Y a peut-être j'ai peut-être une difficulté générationnelle. Hein, je ne veux pas surestimer mes capacités d'analyse. Il se peut que tout ça soit un peu trop nouveau pour moi et que je sois sur des positions classistes, au sens marxiste du terme, et peut-être classique aussi. C'est vrai que j'ai tendance à voir, moi, plus de subversion dans le fait que des femmes indiennes protestent contre des viols commis par des soldats en manifestant nus dans la rue, ce qui, dans leur culture, est un truc énorme. J'ai tendance à voir plus de subversion là, ou dans la lutte des paysans mexicains qui se mettent à poil de la même façon. Que dans des activités ludiques qui, pour moi, tiennent un peu d'une espèce de carnaval démocratisé et reproduit à une fréquence nettement supérieure à celle du Moyen-Âge, dont je vois pas très bien ce que ça... je vois très bien ce que ça peut changer dans la vie des individus concernés. Alors, je leur donne ma bénédiction, dont d'ailleurs ils se passent très bien, et ils ont raison. Voilà, où est la subversion, là, je dois dire que je la vois pas très bien.
Et bon, comme on peut lire aussi dans la fin du livre, c'est que le capitalisme, le système capitaliste, et on peut parler d'un exemple un peu particulier qu'il faudrait qu'on développe, mais on n'aura pas beaucoup de temps, donc du courant transhumaniste, en fait, récupère ces formes de revendications comme la ouais. question du genre pour parler d'une égalité avec des hommes-machines, quoi.
Ce sont des gens qui, les transhumanistes ou post-humanistes, en très gros, ce sont des gens qui considèrent que le corps est obsolète, c'est fini, c'est complètement dépassé. Ils font ou l'augmenter ou carrément le modifier fondamentalement de telle manière que ça n'ait plus rien à voir avec le corps humain qu'on connaît maintenant. C'est une espèce, si tu veux, d'avatar des libertariens ou des ultra-libéraux capitalistes qui donc ont pas du tout un point de vue moraliste, contrairement aux hygiénistes dont on parlait tout à l'heure. Au contraire, ils voient comme... alors c'est des gens qui ils sont branchés à la fois avec des artistes d'avant-garde, avec des scientifiques... ça rejoint la recherche militaire hein, sur l'augmentation du corps, parce qu'on peut faire en sorte qu'un soldat porte 10 fois plus de matériel sur le dos sans le sentir, qu'il puisse ne pas dormir pendant 8 jours, etc. etc. Donc ces gens-là qui sont une espèce d'avant-garde, pour l'instant idéologique, mais reliés à des recherches qui ont déjà des applications techniques, hein, les nanotechnologies, la recherche militaire, les biotechnologies, une espèce d'avant-garde du système qui est tout à fait prête à récupérer tout et n'importe quoi. Les antispécistes, parce qu'il y a l'idée que oh ben, la limite entre l'humain et l'animal, c'est pas si clair que ça, donc venez parmi nous. On accepte de considérer que les grands singes ou les dauphins ont les mêmes droits que les êtres humains, et donc ensuite on pourra attribuer les mêmes droits à des robots ou à des mélanges humains-robots. Ils accueillent effectivement les consommateurs de drogue, ils accueillent les transgenres ou certaines variétés de féministes. En gros, ils se disent qu'ils ont des espèces de réservoirs de sympathie dans les marges du système. Et ils sont prêts à y accueillir n'importe quoi, pourvu que ça brouille les frontières. Et là, on retombe sur ce que tu évoquais tout à l'heure, brouiller la frontière du genre. Bien sûr, c'est quelque chose qui est très théorisé, par exemple, par quelqu'un comme Judith Butler. Mais ça ne les gêne pas, eux, qui sont pour une espèce de réforme extrémiste du système capitaliste. Très bien, brouillons toutes les frontières. Quand on ne saura plus qu'est-ce que c'est qu'un homme, qu'est-ce que c'est qu'une femme, qu'est-ce que c'est qu'un humain, qu'est-ce que c'est qu'un animal, qu'est-ce que c'est qu'une machine, on va pouvoir construire un nouveau monde absolument formidable, où d'ailleurs il n'y aura plus d'exploitation, parce que c'est les robots qui se chargeront de faire le travail, et où les êtres humains à l'ancienne, dit un responsable dont j'ai oublié le nom, mais vous le trouverez dans le livre, seront un peu comme des chimpanzés.
Voilà. Enfin, l'enjeu de tout ça, en fait, ce que je relevais comme ça, c'est la dépossession définitive de l'espèce humaine dans son cadre de vie et historique.
C'est l'idée que tous ces gens, par ailleurs, défendent l'idée que les êtres humains que nous sommes, qu'on soit hommes, femmes, transgenres, hein, ne sont pas capables de créer leur propre histoire. C'est-à-dire qu'ils disent qu'il faut abandonner toute espèce de projet de changement culturel, de changement de société. Ce qu'il faut, c'est modifier la structure génétique, moléculaire même de l'être humain. C'est ça la seule voie possible. Donc ça veut dire, du point de vue qui nous intéresse particulièrement ici, que toute révolution est impossible, que toute histoire des sociétés humaines est terminée et que simplement il va y avoir une espèce de dépassement matériel pour arriver à autre chose qui sera gérée de quelle manière et par qui. Avec les problèmes du pouvoir, évidemment, restent, si celui du travail est résolu par hypothèse, le problème du pouvoir, lui, reste entier.
Et alors, scientifiquement, on y est bientôt à ce genre de...
Alors, à la fois, on n'y est pas tout à fait parce que il y a quand même encore pas mal de travail. Et en même temps, ça va assez vite, plus vite qu'on ne pourrait croire. C'est-à-dire qu'on n'est plus tout à fait dans la science-fiction. C'est la science-fiction d'il y a 50 ans. Pour ce qui est de l'augmentation du corps, il y a déjà des réalisations d'ailleurs tout à fait remarquables d'un point de vue technique, hein, et qui bénéficient à un certain nombre de gens handicapés. On peut greffer des mains artificielles, des bras artificiels qui sont actionnés mentalement parce qu'il y a des connexions. Enfin, on arrive à faire des choses absolument fabuleuses. D'un point de vue technique, on va de plus en plus vers des mélanges homme-machine. Il y aura probablement des tas d'échecs dont on ne nous parlera pas nécessairement. Mais on est plus avancé qu'on ne croit. Après, ça ne signifie pas que ça soit inéluctable. Je pense d'ailleurs que même si ça se mettait en place très vite, il resterait de nombreuses résistances reposant justement sur le corps et sur les sabotages de tous ces divers systèmes de contrôle biométriques qui paradoxalement sont un retour au corps, hein, puisque tous les systèmes biométriques consistent à transporter sa propre identité dans ses organes, l'iris de l'œil, les empreintes digitales, la texture de la voix, etc. etc. Donc le corps reste à la fois le champ de bataille, en tout cas un des champs de bataille, singulièrement pour chaque individu, et un moyen de résistance.
Donc il nous faut chanter le corps authentique.
Oui, mais le corps authentique, ça n'existe pas beaucoup. On ne sait pas très bien. Il n'y a plus de corps authentique. Il n'y a qu'un corps... on ne peut pas revenir à un corps naturel. Je pense que le corps est nécessairement culturel, mais en tout cas, il faut qu'il soit critique le plus possible.
Merci, Claude Guillon.
On se quitte avec Charles Lloyd. Mm-hmm.
Thank you.